très tôt, quand on vit en banlieue, qu'on n'est pas forcément bon élève, on va vite vous mettre dans une case, ce qui aurait pu être mon cas. Et je pense que 15 ans plus tard, quand je suis devenu patron, jeune patron d'une boîte, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je ne veux pas que d'autres personnes vivent ça.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Anthony Babkin. À 35 ans, il est à la tête de l'association Diversity Days, qui a pour mission de promouvoir plus de diversité dans les métiers de la tech et du numérique. L'objectif, accompagner et valoriser les talents du numérique issus de la diversité sociale, ethnique, culturelle, mais pas que. Comment faire pour qu'à talent égal, on ait les mêmes opportunités? On en parle tout de suite. Salut Anthony.
Salut Thibault.
Pour le podcast La Relève, j'aime bien démarrer sur le côté perso des invités. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de finalement où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Évry-Courcouronnes, donc au sud de Paris, c'est 30 km d'ici. Souvent on confond avec Ivry et j'ai grandi dans cette ville qui est très connue pour être très multiculturelle. Donc j'ai grandi dans ce, on va dire, dans cette espèce de richesse culturelle. Où ceux qui m'ont permis d'avoir le bac, c'était un étudiant sénégalais ou togolais. Il y a un souvenir, quand je parle de mon enfance, qui me revient souvent. Je pense au moment où j'étais en échec scolaire en quatrième. J'ai été tout ce qu'on appelle un mauvais élève, la personne qui ne tient pas sur les bancs de l'école. Je revois ce moment avec ce conseiller d'orientation en quatrième, où en fait, on te demande de faire un choix. T'es en échec scolaire, les notes sont terribles, le bulletin bardé de mauvaises notes, de notes en dessous de 10 et de commentaires. Voilà, j'étais un peu insolent, je ne tenais pas sur une chaise. Et je revois finalement ce conseiller qui me dit « Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Puisque là, tes notes ne te permettent pas de continuer dans une orientation standard. Et donc, moi, j'aimais bien la cuisine. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt... cette personne avait fait un choix assez franc pour moi de dire « Ok, tu vas faire un CAP cuisine. » Par chance, j'ai eu trois choses qui m'ont aidé. Les parents, bien sûr, de dire « Mais Anthony, un CAP cuisine, si tu n'es pas plus ambitieux, si derrière, je ne sais pas, tu vas pas vers quelque chose type un bac pro et puis après un BTS, pourquoi pas une école, ça se trouve, tu vas être... on t'envoie vers une voie de garage, quoi. » La deuxième, c'est soutien scolaire, à l'époque, de ma ville. Le troisième, c'est les assos d'égalité des chances. Je vous passe pas mal de détails de mon parcours qui font que pendant 10 ans, je vais me battre avec tous ces acteurs-là et qui font que je suis devenu, presque 15 ans après, directeur général adjoint d'un groupe de publicité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, je me rends compte que très tôt, quand on vit en banlieue, qu'on n'est pas forcément bon élève, on va vite vous mettre dans une case, ce qui aurait pu être mon cas. Et je pense que 15 ans plus tard, quand je suis devenu patron, jeune patron d'une boîte, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je ne veux pas que d'autres personnes vivent ça. Et ce qui m'a donné envie de créer ce dont on va parler aujourd'hui, Diversity Day, c'est aider des gens à s'orienter vers les métiers d'avenir, leur donner de la confiance nécessaire pour qu'ils trouvent leur place dans la société et à talent égal, trouver des opportunités pour tous les talents de France. Voilà, c'est pour ça, la raison pour laquelle je me lève le matin aujourd'hui.
Tu dis que tes parents t'ont beaucoup aidé. Eux-mêmes, ils viennent de quel secteur,
J'ai une maman qui est dans le social, donc qui, on va dire, sur ses 10 dernières années de carrière, a été plutôt à aider des travailleurs handicapés. Et j'ai un papa qui est dans la musique, donc rien à voir. C'est, on va dire, que je viens de la petite classe moyenne, mais une petite classe moyenne qui a beaucoup souffert. Mais les 10 dernières années de carrière de mes parents ont été compliquées. Donc j'ai vu aussi ce que pouvait être la précarisation de cette petite classe moyenne qui vit en banlieue. Et donc ce qui me donne aussi envie de me battre, c'est ce pourquoi sans doute aujourd'hui je suis autant engagé, c'est de me rendre compte que mes parents, malgré leurs compétences, le fait qu'ils n'avaient pas le bac peut-être, nous ont poussé avec mon frère et moi à aller vers les études supérieures, conscient en fait que le manque de diplôme pouvait être aussi une barrière. Mais de l'autre, c'est aussi cette capacité à dire « Ok, mon fils, nous, on a raté le coche études, mais vous n'allez pas passer à côté. » Il m'a répété ça en boucle. Donc, je dis parfois pour rire que le papa m'a biberonné à l'ambition. Mais en fait, c'est de dire, c'est les parents qui ont suffisamment vécu les conséquences, les déterminismes, le déterminisme social qu'il y a derrière le manque de diplôme, de dire en fait vous n'aurez pas les mêmes séquelles, on va tout faire pour que vous fassiez des études. Donc ils nous ont poussé vers cette voie. Manque de peau, c'est qu'ils ont eu un fils qui n'était pas bon à l'école.
Et ton frère, il a fait quoi? Enfin, c'est un grand frère, un petit frère?
Petit frère, 8 ans de moins, plutôt pas mauvais élève, mais je pense que les parents avaient été tellement fatigués, et lui de voir à quel point il rentrait à la maison, on était toujours en conflit, enfin à se battre avec le daron, etc. Donc je pense qu'il a suivi la bonne voie. Et on a fait la même école qu'à Évry d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque l'Institut National des Télécommunications, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Mines Télécom Business School. Vivre à Évry, passer devant une des plus grandes écoles qu'on a en France, parce que c'est une très grande école, l'Institut Mines Télécom. De ne pas savoir jusqu'à l'âge de mes 20 ans ce qu'il y a derrière ces grands murs, et un jour d'avoir un prof qui dit « Écoute, Anthony, tu n'es pas si bête que tu l'imagines, tu peux peut-être faire cette école », et qui me prépare à ce truc-là. C'est ça aussi les déclics qu'on peut avoir, les rencontres qu'on fait finalement au cours de sa période scolaire ou de sa période professionnelle, de gens qui deviennent des mentors au final. Donc moi, je les appelle les bonnes fées, mais c'est ces gens qu'on a la chance de croiser.
Les mines, c'est l'école d'ingénieurs.
C'est une école, ouais, qui est à la fois manager-ingénieur. Il y a un parcours manager dans cette école historiquement d'ingénieurs. Et c'est sa force, d'ailleurs, c'est de former finalement des managers qui sont censés pouvoir évoluer dans un environnement tech. Donc, tu te doutes bien que le reste de mon parcours, et avec Mounira, la cofondatrice de Diversitize, par-delà, c'est de tomber dans une école dont finalement l'ADN est très tech. Et donc, finalement, on va nous orienter plutôt vers des métiers de marketing digital, etc.
Alors, tu as ton conseiller d'orientation en quatrième qui te propose de faire un BEP cuisine.
CAP, oui.
Un CAP cuisine, pardon, parce que tu aimes bien la cuisine.
Yes, je l'aime toujours, hein, ça se voit.
Qu'est-ce que tu fais finalement de ces conseils cuisine?
Ouais, écoute, à ce moment-là, je suis assez déterminé à l'idée d'aller vers ce type de parcours. J'ai les parents qui mettent le nez dedans, qui finissent par, dans leur petit réseau, sans réduire leur action et tout ce qu'ils ont envie de mettre en œuvre, mais ils trouvent un ami d'un ami qui est restaurateur et dans lequel je vais faire finalement un stage d'initiation. Et où finalement, le côté très militaire de la cuisine, je ne l'avais absolument pas vu. J'aimais bien faire à manger, j'aime toujours faire à manger. Et en fait, je me suis aperçu que la cuisine n'était pas faite pour moi en tant que professionnel. Et donc, il faut avoir cette chance d'avoir finalement des parents qui, à un moment, vont rentrer un peu en opposition avec quelque chose qui est un peu pré-écrit pour vous. Et c'est ça que je reproche finalement aujourd'hui au milieu de l'orientation scolaire, c'est que finalement, on décide pour vous d'où vous allez aller en fonction de vos notes. Et je dis souvent, en défiance peut-être à ce système-là, est-ce qu'on a demandé aux grands artistes, aux grands créatifs, aux visionnaires de notre société, quel diplôme ils avaient? Enfin, je veux dire, si on rétropédale, je ne suis pas sûr qu'on demanderait quel diplôme avait Picasso, Mozart, Van Gogh, j'en sais rien, enfin, des grands noms de l'histoire. Donc, je m'interroge aujourd'hui sur le fait que finalement, être mauvais à l'école, c'est être mauvais tout court.
Donc, école d'ingénieur, ouais. De manager, ouais. Et puis ensuite.
Et le CELSA aussi. En gros, je pense que j'ai eu tellement la phobie, soit la phobie de ne pas avoir les bons diplômes et conscient des difficultés à trouver un job, parce que j'ai eu ce problème-là aussi à un moment de réussir à trouver ma première expérience professionnelle compte tenu du peu de réseau que j'avais. Et puis de tout ce qu'on ne dit pas aussi sur quand tu nais derrière le périph' avec un nom à consonance étrangère, des parents qui n'ont pas le réseau, c'est-à-dire en gros... que tu as mille et une raisons de ne pas trouver le bon job. Le nom à consonance étrangère ou la ville de banlieue, on ne le dira pas, mais en fait, c'est chiffré. Le défenseur des droits mesure cela depuis maintenant une dizaine d'années et montre qu'à compétence égale, si vous avez une ville de banlieue sur le CV, bah, c'est moins vendeur. Et alors, le nom à consonance étrangère, et d'autant plus maghrébine, ce qui n'est pas mon cas, mais d'autant plus maghrébine...
Babkin, c'est de quelle origine?
C'est russe. Okay. Ce n'est pas très à la mode en ce moment, je suis désolé. Et donc ça, c'est un vrai défi. À l'époque, c'est la Fondation Mosaïque qui va m'aider à trouver mon premier job il y a 10 ans. Sur ce constat simple de bah, Anthony, votre CV, il n'y a pas de grande entreprise dessus, vous avez un nom à consonance étrangère et vous habitez une ville de banlieue, on pense que vous pouvez être potentiellement discriminé.
Donc là, tu as fait les mines,
ouais.
Le CELSA.
J'ai pas encore fait le CELSA.
Bon, tu as déjà un très beau diplôme.
Ouais. Et ça suffit pas.
Ça suffit pas.
Non, ça suffit pas. Je pense qu'à l'époque, j'avais envoyé une centaine de CV, aucune réponse. Et c'est grâce à Mosaïque que j'ai trouvé mon alternance chez GDF Suez à l'époque, qui s'appelle Engie aujourd'hui. Et je vois bien qu'en fait, avec le recul, c'est parce que je faisais partie de ces fameux quotas de jeunes de quartier ou de banlieue. Je pensais à l'époque avoir cette opportunité-là un peu par hasard. Et en fait, j'ai bien compris par la suite qu'il s'agissait pour l'entreprise de revendiquer une forme de diversité dans son recrutement. Et je pense qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce qu'il y a une démarche proactive que je suis passé entre les mailles du filet.
Du coup, c'est une question que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais pour ou contre les quotas?
Partagé, parce que les quotas ne font pas tout. D'ailleurs, sur la question du handicap, on voit bien que beaucoup de boîtes sont contraintes par la loi et qu'elles ne respectent pas leurs engagements sur ces dimensions-là. Elles préfèrent payer parfois la GFIP ou des cotisations ou des amendes, en quelque sorte, plutôt que de remplir leurs engagements. Donc, partagé, aux États-Unis, on voit bien que les quotas ne résolvent pas tout. Sur la partie ethnique, par exemple, on voit bien que des boîtes sont beaucoup plus diverses que celles en France. Mais si on regarde au niveau de poste auquel les gens sont, la partie diversité ethnique, je parle de personnes de couleur, parce qu'on dit « people of color » quand on le dit en anglais, mais c'est « POC ». Les personnes de couleur sont moins dans les rangs hiérarchiques élevés. Donc, finalement, on retrouve toujours une forme d'inégalité et elle est très liée aussi au souhait assez volontariste du patron, du dirigeant ou de la dirigeante de vouloir vraiment faire bouger les lignes sur ces sujets.
Alors, on va peut-être parler de diversité et puis après de Take Your Place, dans
plaisir.
Lequel on est tous les deux engagés. Enfin, en tout cas, ce n'est pas moi qui suis engagé, c'est Christina Zamfir, mais en tout cas, Castalie est engagée.
Mais je vais t'engager davantage.
Comment ça se passe? Donc, tu bosses en agence?
J'ai bossé en agence pendant presque 6 à 8 ans.
Ouais. Tu disais que tu étais patron?
Je suis passé vraiment en charge du community management à responsable des réseaux sociaux, à responsable d'un pôle, à vraiment directeur général adjoint dans le COMEX de l'entreprise, etc. C'était un long parcours du combattant parce que je considère que je n'avais pas les codes pour mille et une raisons. Les codes d'un milieu social qui n'était pas le mien, les codes de la pub qui depuis a eu quelques emmerdes. Quand on regarde le compte Balance Ton Agency, ça montre quand même qu'il y avait une espèce d'omerta sur tout ce qui se passait en agence. Pas forcément celle dans laquelle j'étais, mais beaucoup d'agences où finalement il y avait du sexisme ordinaire, racisme ordinaire. Et c'est bien parce que ça a pété. On n'est plus au XXe siècle. Il y a un siècle qui est passé depuis. Et je considère que Internet, les livres sont à la disposition de tous. Et donc, pour des gens qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit, c'est à la portée de main de se former.
À quel moment tu te dis j'ai envie de faire autre chose? Pour quelle raison? Et à quel moment?
En gros, entre le moment où je suis en échec scolaire, le moment où je retrouve à peu près ma voie, il y a eu un coming out aussi entre-temps. Je pense qu'il était structurant dans mon parcours. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps non plus. Mais s'émanciper, assumer ce que t'es et le dire aux autres et que ça se passe bien aussi, ça permet d'être plus soi-même. Donc je pense que pendant 10 ans, j'étais vraiment dans une espèce de sprint. Et c'est pas étonnant qu'à 30 ans, j'ai eu ce poste-là, parce que j'ai tout fait pour l'avoir et parce que j'ai énormément travaillé. Mais je considère qu'à l'âge de 30 ans, il y avait comme une espèce d'ambivalence entre ce que j'avais vraiment envie de faire et mes valeurs. Je sais que je me suis réveillé autour de mes 30 ans en disant « il y a des choses que je ne comprends pas dans cette entreprise ». Et j'ai commencé à poser des questions. Et mon boss a bien vu que ça commençait à me chatouiller. Il m'a dit « écoute Anthony, si ça te va, je te nomme en charge des questions de diversité et d'inclusion pour l'entreprise ». Je te donne le sujet et tu vois ce que tu peux en faire. Du coup, je me décide à rencontrer la DRH du groupe. Et bon, je m'en fous, c'est le passé, donc j'assume aussi. Et puis, je lui dis, voilà, j'aimerais bien qu'on mette plus de diversité dans notre programme talent. Donc, elle me dit, mais pourquoi faire? Donc, c'était la première question. Donc, je lui explique tout l'intérêt et toute la richesse que peut apporter la diversité dans l'entreprise. Et dans le deuxième échange...
C'est embêtant quand tu as la RH qui commence
à poser cette question-là, ouais, c'est compliqué.
Ça part mal.
Et la deuxième question dans ce programme talent sur lequel j'avais été moi-même chassé quand j'étais au CELSA, j'avais déjà posé la question, pourquoi vous venez nous voir nous et pas les talents d'Evry? J'étais déjà un petit peu vindicatif en me disant, c'est bizarre quand même, on va voir seulement dans le petit sérail parisien. J'ai cette même DRH que je vois 5 ans plus tard, à qui je pose la même question, je ne se souvenais plus que c'était moi. Et elle me dit, écoute, ce que je te propose dans le programme talent, c'est qu'on commence avec un. Dans ma tête, ça a fait 1000 tours, je me suis vraiment dit, mais... un quoi, quoi. C'est-à-dire, en fait, on est dans un espèce de truc où on est dans seulement de la représentation et elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait. Et c'est vraiment là où je pense que mon déclic a commencé en me disant « je ne suis pas au bon endroit pour faire ce que j'ai envie de faire ». Mon rôle, c'est de porter une nouvelle génération, d'apporter des solutions auprès de beaucoup plus de gens, pas faire ça dans un petit cocon qui n'a pas forcément envie de changer.
Donc, tu es parti et ensuite, tu as eu besoin de combien de temps de jachère pour...
J'ai eu besoin de 3 mois pour négocier mes départs et de 3 mois pour me remettre... Oui, replanter une graine. L'avantage, c'est qu'avec donc Mounira, que j'ai rencontré sur les bancs de l'école à l'Institut Minitélécom, on avait écrit des bouquins, c'est des bouquins sur le numérique, on a pris notre place dans le marketing digital. Elle a créé son agence, ça fait 10 ans qu'elle est à la tête de sa propre agence. Pour ma part, j'avais rejoint une agence. Mais finalement, on a eu des parcours vachement liés. et on s'est tous les deux aperçus du manque de diversité dans ces métiers-là. Ça a été paradoxalement un ascenseur social pour nous, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas pris cet ascenseur. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'étais, par chance, j'étais encore en agence avec la confiance de mon patron de l'époque qui s'appelait Emeline Korengold, qui était un Américain d'ailleurs. Donc tu vois, je me retrouve aussi dans cet état d'esprit de fais-le, tu vois, fais-le, on te donne les moyens, vas-y, lance-toi. J'aime beaucoup cet état d'esprit-là, ce qui m'a permis peut-être de réussir dans ce groupe-là. Et ensuite,
C'était TBWA.
TBWA. Et pendant cette même expérience.
C'est toujours le patron de TBWA.
Ça ne l'est plus, mais, okay. Mais il a pris la tête d'une autre agence, donc ça va, il s'en sort pas mal. Je lui passe un coucou si un jour il nous écoute. Et tu vois, finalement, pendant l'exercice de ses fonctions là-bas, ce boss avait été vachement chouette parce qu'il m'a dit Anthony, on t'aide sur le projet que tu as envie de monter. C'est comme ça qu'est né Diversity Days. Il sentait que ça bouillonnait. Et je lui ai dit, écoute, moi, la raison pour laquelle je peux rester encore un peu, c'est qu'il faut que TBWA m'accompagne en pro bono. Donc, ceux qui ne sont pas familiers de l'expression, pro bono, c'est quand une agence vous accompagne gracieusement sur un projet social ou sociétal. Et donc, à l'époque, TBWA nous avait aidé avec Monira à monter un peu les fondements de Diversity Days. C'était une première scène qui a vu le jour le 27 novembre 2017 à l'Européen. Et c'est là que tout a commencé. C'est là aussi que quelques mois après, j'annonçais ma démission et que je me lançais dans cette aventure Diversity Days, qui est aujourd'hui une asso d'égalité des chances au niveau national et que j'ai la chance de co-animer aussi avec Mounira, qui a toujours son job, mais moi, c'est mon job à plein temps.
Pourquoi une asso ?
Par choix. J'ai été plongé pendant 8 ans dans la marge brute et tout ce qu'il faut rendre comme compte à un investisseur. Et j'avais pour souhait d'avoir quelque chose qui soit vraiment non-profit. C'était vraiment un souhait de ma part de me dire on va aider des gens. Et alors, il y a plein de gens qui me disent mais aider des gens, c'est politique. Je dis que aider des gens, ça ne devrait pas être politique. En fait, aider des gens, ça devrait être finalement la base de notre société. Aider à reprendre confiance en soi, aider à trouver des programmes qui te permettent de développer ton projet, développer une idée, surtout si tu n'as pas de réseau, pas de visibilité, pas les parents, pas les bons codes. Voilà. Donc, c'est un choix complètement assumé. On me challenge régulièrement en disant « Oui, mais tu ne voudrais pas avoir un mode plus hybride, etc. » Non, on va lever des fonds auprès de bailleurs qui ont envie à un moment d'avoir une action philanthropique ou qui considèrent que aider les gens, c'est une action noble.
Moi, ce n'était pas une question piège.
Non,
tu te justifies.
Non, ce n'est pas de la justification.
Mais, je déjeunais il n'y a pas très longtemps avec Jean-Marc Borello.
Ouais.
Qui pour moi est, j'allais dire, un monstre du business solidaire, c'est une asso.
C'est des choix de modèle. Et d'ailleurs, mais pourquoi ? Non, c'est pas de la justification, c'est parce que.
Mais tu vois, je peux te dire que si tu lis leur rapport financier, ils parlent de chiffre d'affaires, plus d'un milliard d'euros, d'EBITDA et de résultats nets.
Bien sûr. C'est moins une justification qu'une revendication. Je considère qu'aujourd'hui, on devrait être désintéressé lorsqu'on s'occupe des personnes en difficulté, ou de personnes en situation de dépendance. Et donc moi, c'est un choix.
Bon, c'est un choix.
Désolé, je suis un peu vindicatif,
très respectable. vous êtes combien chez Diversity Day ?
On est une dizaine. Ouais. On a à peu près 200 bénévoles actifs chaque année et qui animent à la fois des ateliers, qui animent à la fois des webinars, des temps forts de montée en compétences, du mentorat. Donc, beaucoup de gens que je remercie d'ailleurs nous faire confiance, nous prêter de leur temps. C'est, sans ça, une asso n'existe pas.
Concrètement, vous accompagnez des gens, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que concrètement, on a créé des programmes qui accompagnent des gens soit dans leur reconversion professionnelle, soit à accélérer leur start-up. Il y en a deux auxquels je pense. Le premier s'appelle Déclic numérique. On l'a créé pour essayer de faire une passerelle entre des enjeux aujourd'hui de reconversion professionnelle et des personnes qui ne savent pas forcément que le numérique, ça peut être une bouée de sauvetage ou même l'objet d'une reconversion. Donc, on a beaucoup de gens, pour le coup, là, pas mal de seniors aussi qui suivent ce programme-là. On a eu 4000 bénéficiaires sur 1 an et demi. C'est un programme court, gratuit, 100% en ligne.
Quand tu dis court, c'est combien de temps ?
Ça dure 2 semaines environ. Okay. 3 semaines si on compte la partie forum d'orientation, école ou emploi. Mais sur ces 4000 personnes, on a eu pas mal de gens au RSA, 60% de femmes. On a eu presque 15% de personnes en situation de handicap. Pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est, ça s'appelle Déclic numérique tout au pluriel.
On mettra le lien en commentaire.
Et l'objectif, c'est de permettre à tout un tas de gens qui voient que finalement leur métier est un peu en perdition ou qui ont mal vécu la crise Covid, de penser une reconversion vers ces métiers. Des métiers finalement où les gens ne savent pas forcément que parfois ne pas avoir le bac, c'est pas un problème. Qui n'ont pas forcément conscience que la formation peut leur être payée par la région, par Pôle emploi. et des employeurs qui sont en demande aussi de main-d'œuvre. Il y a une vraie pénurie de talents dans ce domaine-là, de développeurs et pas que, de personnes dans le marketing digital, dans le customer service. Il faut former abondamment des gens et surtout leur ouvrir les portes de l'entreprise. Donc, c'est la vocation de ce programme, ouvrir les portes de la tech et permettre à une nouvelle génération de gens d'arriver dans ces métiers. Donc, pour nous, c'était d'ouvrir un peu plus les portes de la tech et dire, regardez, vous pouvez vous former. Il y a des gens qui vous ressemblent, qui l'ont déjà fait. Donc, il y a cet élément aussi de rôle modèle qu'on met beaucoup en avant au début du programme, leur montrer des gens comme eux, qui sont en situation de handicap, seniors dans l'emploi, qui ont été discriminés, etc. Alors, je ne dis pas qu'on met en avant tous ceux qui ont eu des galères, mais plutôt des gens qui ont eu parfois des accidents de parcours ou même parfois des choses qui les ont ralentis, mais qui montrent quand même qu'ils y sont parvenus. L'objectif, c'est de dire, regarde, c'est possible. Et ensuite, c'est leur permettre pendant plusieurs semaines de monter en compétences sur des compétences de base, à la fois de savoir c'est quoi les métiers du numérique, quels sont les métiers qui recrutent, quelles sont les formations qui permettent d'y aller, c'est quoi être développeur, c'est quoi le quotidien d'un quelqu'un dans le marketing digital, quelles sont les formations qui recrutent le plus après leur diplôme dans votre région.
Tu es retourné voir le conseil d'orientation en quatrième ou pas?
Non, je n'ai pas eu encore cette occasion, mais je pense qu'il vaudrait mieux pas en fait. Il y a une bénévole de l'asso qui s'appelle Toufat Mohamed Moutaré, qui a écrit pas mal de livres, qui est originaire des Comores, et qui me dit souvent, Anto, tu es le toi de l'époque. Et c'est vrai que je trouve cette phrase assez forte. Je pense qu'on est tous dans notre présent des gens qui aidons le nous de l'époque. Les moments où on a eu des galères, où on a été peut-être mis en difficulté. Donc moi, aujourd'hui, j'ai l'impression, avec ce qu'on fait dans ces programmes, d'aider le moi de l'époque à ouvrir des réseaux, à dire c'est possible, à mettre en lumière des gens peut-être que je ne voyais pas suffisamment.
Est-ce que tu n'interviens pas un petit peu plus tard dans le parcours de la personne?
Alors oui, on a un deuxième programme qui s'appelle le Leadership Programme, qui aide en fait des entrepreneurs de la diversité au sens large. Le mot diversité est souvent... décrié. Moi, j'adore ce mot. Je pense que la diversité a un vrai sens. La diversité, dès lors où on la qualifie, les diversités. Et donc, c'est des talents qui peuvent être en situation de handicap, qui peuvent avoir été discriminés, qui sont sous-représentés dans la tech et qui, pendant plusieurs semaines, on va accompagner dans un programme de leadership qui dure au total 120 heures. Et l'objectif, c'est leur apporter les armes d'un leader, c'est-à-dire savoir parler d'eux, savoir parler de leur entreprise, savoir pitcher, savoir convaincre un investisseur, les mettre en visibilité aussi dans leur région, dans leur ville. Voilà, on fait tout un travail vraiment d'empowerment qui dure plusieurs semaines. Et généralement, il y a quand même un avant, un après Diversity Days, parce qu'on leur ouvre un réseau, un champ des possibles qui est peut-être plus large que celui qu'ils avaient pu avoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est notre deuxième gros programme.
Vous avez combien de programmes?
On en a trois, et le troisième, c'est Take Your Place, dans lequel tu es inscrit.
Ça, on est très contents d'avoir, dès l'origine, finalement, rejoint le mouvement. Tu peux nous en parler?
Oui, je pense que c'est pas un secret. Aujourd'hui, le monde de la tech et plus généralement des startups manque terriblement de diversité. Je dis terriblement parce que je pense que le monde des startups a beaucoup à gagner à s'ouvrir davantage. Au-delà de ce qu'elle a à gagner, je pense que je vais parler de responsabilité aussi. En fait, je considère qu'aujourd'hui, les startups sont les premiers, en termes de développement économique, à lever des fonds, à nous rendre enthousiastes sur la suite de notre pays, sur le champ des possibles économiques. Si on regarde de manière très concrète aujourd'hui, 10% des offres en CDI viennent des startups. Donc, elles deviennent finalement le premier recruteur, on va dire, pérenne de France, parce qu'un CDI, c'est toujours quand même assez sécurisant pour un candidat. Et donc, je considère qu'il y a une responsabilité de la part des startups parce qu'elles vont être les leaders économiques de demain. Ce sont les futures boîtes du CAC 40. On appelle ça Next 40. C'est déjà un premier miroir. Il y a écrit Next, mais je sais que l'intention de Cédric O, c'était de faire rentrer certaines boîtes du Next 40 dans le CAC 40. Donc, on est à ça de startups qui vont devenir des grands groupes. Et donc, je m'interroge à présent sur leurs responsabilités. Je trouve qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui là-dessus. Tu as parlé de quotas toi-même. J'ai envie de parler d'engagements aussi sociaux, sociétaux. Qu'est-ce que font les startups aujourd'hui sur le champ social ou sociétal? Il y en a beaucoup qui se revendiquent ESS, ESUS, ou qui ont déjà fait ce travail de démarche en fait, d'entreprise responsable. Mais je m'interroge beaucoup sur le champ de la diversité.
Alors nous, on n'est pas une assoc, mais c'est le cas de Castalli, on est SAS, ESUS.
ESUS. Et c'est déjà un premier engagement. Maintenant, je m'interroge, puisque en 2020, c'était une étude menée par Judith Tripa, qui s'appelait RH First Talent, et qui montrait que finalement, aujourd'hui, 80% des startups n'ont pas de politique de diversité et d'inclusion. Donc en fait, on parle là des politiques RH, Alors, pour le coup, les boîtes du CAC 40 sont 100% à avoir des politiques de diversité et d'inclusion. Dire qu'elles sont toutes parfaites, ce serait mentir. En revanche, ça nous interroge sur le fait que ces futurs leaders économiques ne sont pas encore prêts sur ces questions-là de diversité et d'inclusion. Donc, on a créé Tech Your Place en réponse à cela, à dire, en fait, beaucoup de startups ont un enjeu de diversification de leurs talents à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'on réduise la diversité sociale ou ethnique à des stages de troisième. Il ne faut pas qu'on réduise la diversité au COMEX, à la question du genre. Voilà, il faut l'élargir. Il faut élargir le champ des possibles. Et malheureusement, force est de constater que beaucoup de start-upers ne comprennent pas forcément le sujet ou ne le connaissent pas. Parce que souvent, il y a des questions un peu naïves du type « Oui, mais moi, je ne peux pas faire de charité. » Enfin, il faut que ce soit à compétence égale, au moins. Donc en fait, je dirais que c'est non négociable. Si on parle de cela, c'est bien à compétence égale. Mais à compétence égale, aller chercher des talents qui ne viennent pas toujours des mêmes horizons.
Est-ce que l'inclusion, finalement, ce n'est pas un peu la même chose que le développement durable ? Et je vais préciser, c'est un chemin. On n'est jamais arrivé, en fait. C'est quelque chose que, finalement, on découvre tous les jours. Parce que finalement, l'inclusion aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Et le développement durable, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, chez Castalli, on est un acteur du développement durable depuis plus de 10 ans, mais tous les jours, on découvre des axes d'amélioration et des choses qu'on peut faire mieux.
Bien sûr, c'est une matière vivante. Ces 10 dernières années ont été plutôt prolixes en termes de mesures, d'actions en faveur de la diversité et l'inclusion. Mais si dès demain, il n'y a plus de gens pour se battre ou pour l'animer ou pour faire bouger les lignes, à l'instar d'une Greta Thunberg, mais il y a d'autres gens. Je ne me compare pas à elle, bien sûr. Je suis beaucoup plus trop vieux. Je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours des gens qui, à un moment, mettent un coup de pied dans la fourmilière. Et puis, le meilleur exemple que j'ai, c'était Sophie Bellon, qui est à la tête d'un grand groupe.
De Sodexo,
et qui avait dit, donc elle est une héritière pour le coup, elle a hérité de ce groupe-là, une histoire familiale complexe aussi, mais pour en venir au fait, elle disait lors d'une rencontre qu'on avait avec elle, que toutes les fois où elle a laissé ce sujet de parité un peu lui échapper, en n'étant plus dans une démarche volontariste, elle a vu finalement le sujet se diluer avec des mecs qui finalement vont... écarter des femmes pour des raisons obscures ou qui vont être malmenées, etc. Donc, en tant que patronne, c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, cette notion de parité. Et elle me dit à chaque fois, elle disait à chaque fois que j'ai lâché le sujet, eh bien, finalement, la situation est revenue comme avant.
On dit souvent que le développement durable, finalement, aujourd'hui, il faut y aller ou disparaître. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas la même chose sur l'inclusion ?
Je pense qu'il faut créer de la conviction. Je considère qu'il faut continuer à faire de la pédagogie auprès d'un patron comme toi, mais qui est déjà grandement éclairé, donc c'est plus facile. Mais auprès de patrons qui pensent que ces questions de diversité et d'inclusion, c'est de la solidarité. J'adore la solidarité, je pense qu'elle est essentielle. En revanche, ce n'est pas les mêmes sujets. C'est-à-dire que vraiment, continuer à faire comprendre que c'est à compétence égale donner l'opportunité à des gens différents. Sur la base de critères sociaux, critères géographiques, critères d'âge, etc. Et donc, je pense que c'est de continuer finalement à informer, à créer de la connaissance autour de ça et créer de la conviction. Quand je dis créer de la conviction, c'est qu'il y a quand même une étude de McKinsey qui existe depuis 10 ans sur diversité et inclusion. Dans tous les scénarios, en fait, on voit que cette diversité-là, elle apporte à la fois plus d'engagement des collaborateurs et aussi plus de performance économique. Donc, c'est peut-être aussi ça qu'il faut rappeler aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise, c'est de dire qu'elles ont tout à gagner en termes d'engagement des collaborateurs et aussi de performance.
Est-ce que le monde anglo-saxon est plus ouvert sur le sujet ?
Ah ben, ils sont à des années-lumière de ce qu'on sait faire en France. Ils sont tellement extravertis et émancipés des questions auxquelles nous, dont on n'arrive même pas à parler. J'ai eu la chance de rentrer dans le programme de la Obama Foundation il y a quelques semaines. Donc, on a cette chance de pouvoir rencontrer tout un tas de décideurs publics, politiques, économiques, qui nous parlent de ces questions-là. Ils sont tellement... Enfin, j'ai envie de dire, ils sont dans le futur. On a 10 ans de retard. 10 ans de retard.
Dans les pays européens, qu'est-ce qui en avance sur nous ?
L'Europe est... La Grande-Bretagne est toujours en Europe.
Il y a le tournoi destination, je les mets avec le tournoi destination, là, c'est...
Ouais, c'est ça.
Il y a le crunch bientôt.
C'est ça.
On enregistre, on est le 10 mars.
En fait, je pense que, oui, les, 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 les Anglo-Saxons sont beaucoup plus émancipés que nous. Alors, certains récusent la partie quota, etc. Mais même sans parler de ça, c'est de pouvoir parler de sujets, du fait religieux, du fait ethnique, des biais aussi inconscients qu'on a dans nos entreprises, notre société. Ils sont beaucoup plus extravertis, beaucoup plus libres de parler de ces questions-là. Et souvent, en France, on récuse souvent ces sujets ou ces questions en disant « mais c'est trop politique, non mais attention ». Finalement, c'est ancré culturellement. Et donc, c'est dommage parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Ma petite fierté sur ça, c'est que j'ai rendu moi un rapport en 2020 sur la question du manque de diversité dans les métiers de la tech, du numérique. Il y avait une proposition qui était d'aller plus loin sur le fait de mesurer les questions de diversité dans l'entreprise. Et Elisabeth Moreno s'est saisie de ce sujet. Elle a créé un index diversité. C'est la première fois en France, là en 2022, qu'on va pouvoir mesurer les discriminations ou le niveau d'inclusion des personnes racisées ou des personnes d'origine sociale différente. Donc, on avance à petits pas. Ce qui a tendance à m'exaspérer, moi qui aime les grands pas, mais on avance.
Dans quelques semaines, il y a l'élection présidentielle.
Ouais.
C'est quoi ton conseil aux candidats ?
Je pense que l'égalité des chances a été le parent pauvre des politiques publiques pendant ces 100 à 200 dernières années. On a inscrit sur nos frontons de préfecture, de mairie, d'école, liberté, égalité, fraternité. Et ce sujet d'égalité, aujourd'hui en France, on est un des pires pays en Europe. Il faut 7 générations, selon l'OCDE, pour changer de classe sociale. Donc moi, je m'interroge sur est-ce qu'un jour, un candidat va porter vraiment un projet de société très puissant, très fort, au service de l'égalité des chances. Il y a maintenant un Français sur deux qui ne croit même plus en l'égalité des chances. Tellement, finalement, c'est devenu une promesse auquel personne ne croit. Et pourtant, c'est une promesse républicaine. C'est-à-dire, c'est le fondement même de notre société. Donc moi, je me réinterroge sur qui, à un moment, va porter un programme suffisamment ambitieux pour casser les barrières qui existent dans notre société et surtout créer des ponts. Les associations sont un des ponts et je pense qu'il faut en créer des milliers d'autres.
Il faut réformer l'école ?
Il faut réformer les politiques d'orientation scolaire. Je pense que l'école est un des socles de notre société. En revanche, à plein d'occasions, elle exclut le mauvais élève, comme je le disais tout à l'heure, ou celui qui ne rentre pas forcément dans les cases. Souvent, l'école est une case. La bonne ou mauvaise note. Il y a beaucoup de systèmes, en particulier dans le nord de l'Europe, qui ne sont même plus basés sur des notes ou sur les programmes Montessori, etc., où en fait, on va être plutôt sur le fait de faire découvrir quelle est ta vocation, quels sont tes goûts, quelles sont tes curiosités assez naturelles. Il y a des nouveaux modes de pédagogie. Donc, je pense évidemment que l'éducation nationale doit s'en saisir. Elle a commencé déjà à se rénover par rapport au bac en étant peut-être moins linéaire, moins tu as ton diplôme ou pas avec un contrôle continu. Donc, il y a des choses qui progressent. En revanche, je pense qu'on a un vrai sujet sur qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui sortent du système scolaire. J'aurais pu en faire partie. Je suis très, très sensible à ce sujet-là. Je me dis qu'il y a plein de gens qui ont du potentiel. J'en suis humblement la preuve en me disant que j'ai réussi à faire des choses malgré ce qu'on voulait faire de moi, c'est-à-dire vraiment me mettre sur la voie de garage. Et je considère qu'il y a des milliers de gosses, pour ne pas dire maintenant des centaines de milliers d'adultes, qu'on a mis un moment sur le bas-côté et à qui on n'a pas donné d'opportunité ou de projection en raison de ce système scolaire qui est quand même très, très quadrillé, quoi.
Merci beaucoup, Anthony, pour cet échange inspirant.
Merci à toi.
Moi, ce que je retiens, et d'ailleurs, je pense que tu es un bon exemple, c'est le rôle modèle, c'est le récit. Il faut réécrire le récit. Et c'est comme pour le développement durable, finalement. Le développement durable, ça ne doit pas être chiant. Et je pense que l'inclusion, c'est quelque chose qui doit nous animer pour ne pas être chiant et subi. Je suis très heureux de faire participer à Take Your Place. Donc, longue vie au programme Take
Merci.
Your Place. Et puis, je souhaite le meilleur à Diversity Days. Je pense que c'est un bon moment pour passer vos messages aux candidats et puis pour faire changer les choses en France. À bientôt.
Merci beaucoup, Thibaut. À bientôt.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.